Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Nous allons retrouver nos professionnels ridicules ou monstrueux. Bien des livrets, avant et après Mozart, font la part belle aux juristes, surtout les notaires, comme nous l'avons vu, presque toujours ridicules ou inefficaces, à moins que leur office ne soit détourné par divers truchements. Ainsi, dans Le Chevalier à la Rose de Strauss, sur le somptueux livret de Hofmannsthal, c'est un vrai notaire qui vient rédiger le contrat de mariage de Sophie de Faninal avec l'affreux baron Ox. Il a fait bêtement ce qu'on lui demande, sans se poser de questions. Formellement, il est correct, mais c'est un parfait abruti qui ne se rend compte de rien. Il faudra la détermination d'Octaviane et Sophie, aidée par la maréchale qui a accepté non sans mélancolie que son temps était passé, et va se faire la complice bienveillante des deux jeunes gens. Retrouve le notaire décalé dans Don Pasquale. Le vieux célibataire grincheux s'est mis en tête de se marier et il entend convoler avec la charmante Sophronia. En réalité, Norina, qui est amoureuse de son neveu, alors que le vieillard veut lui faire épouser une femme riche, faute de quoi il le déshéritera. Devant la mauvaise volonté du jeune homme, il avait décidé d'épouser une jeunesse pour avoir des enfants. Et son médecin, Malatesta, lui a présenté Sophronia comme sa sœur, prenant grand soin de dicter un parfait contrat de mariage à un faux notaire. En fait, c'est une virago. Et elle dégoûte Don Pasquale du mariage et il finit par accepter que Sophronia, redevenue la jolie et charmante Norina, devienne la femme de son neveu. Le contrat était bien pensé. On écoute le duo de Don Pasquale et de son médecin.
Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso, me ne fa male il cuore.
Il peut y avoir aussi une double perception de normes juridiques contradictoires, dont la compréhension est génératrice de peine qui peut conduire au suicide. C'est le drame de Madame Butterfly. Alors que celle-ci croit être devenue l'épouse de Pinkerton, dont elle va avoir un enfant, qui naît après le retour de l'Américain dans son pays, ce dernier pensait à un mariage à la japonaise, c'est-à-dire limité dans le temps et n'engageant à rien. Il est d'autant plus convaincu que c'est juste là un agréable divertissement au pays du soleil levant. Il se convainc de ce qu'il arrange dans un total égoïsme. Lorsqu'il revient, marié pour de bon, avec sa femme américaine, le désespoir de Madame Butterfly est immense. Mais il n'y a ni haine ni contestation. Elle demande au couple de prendre soin de son petit garçon avant de disparaître pour se suicider, dévastée par un chagrin trop lourd pour elle. Point de procès ni de revendication. Le droit ne sert à rien. Les notaires font techniquement du bon travail lorsque le mariage est en fait un enjeu politique. Les intéressés n'ont normalement pas voix au chapitre. Bien qu'obtenu par dol et violence, c'est un vrai contrat que signe Lucia et qu'interrompt trop tard chez Donizetti le retour d'Edgardo. Ce mariage avec le malheureux Arturo est politique. Le frère de Lucia Enrico, qui a choisi le mauvais parti, se voit au bord de l'abîme, condamné à mort peut-être, politiquement anéanti au moins, et ne trouve de salut que dans ce mariage. Lucia en mourra. Les formes avaient pourtant été complètement respectées. Nous écoutons le désespoir de Lucia. De même lorsque Philippe II épouse Élisabeth de Valois, pourtant promise à son fils, l'infant Don Carlos. L'objectif, c'était conclure la paix avec la France, mais aussi, dans l'histoire réelle, éviter que ce dégénéré de Don Carlos n'ait des enfants auxquels il pourrait transmettre ses vices et sa malignité. Verdi, sans véritable souci de la véracité des faits, a fait le choix d'une vision passablement manichéenne, donc forcément réductrice, mais elle donne naissance à beaucoup d'émotions chez le spectateur. Un contrat brise un amour devenu impossible. Le prix de la loyauté et fidélité absolue en amitié, c'est la mort. C'est une chape de malheur qui s'abat sur les protagonistes. Dans Tosca, celui qui devrait rendre la justice et la faire respecter est un odieux tyran. Il fait torturer Mario Cavaradossi, le peintre amoureux de la belle Tosca, qu'il aime en retour, et s'emploie à le faire exécuter alors qu'il avait promis de le sauver. Il le payera de sa vie. À l'injustice et au mensonge, seule la mort du coupable peut apaiser Tosca qui poignarde Scarpia avant qu'elle ne se suicide en se jetant dans le vide du haut des murailles du château Saint-Ange. On retrouve cette même idée du châtiment légitime du tyran qui exploite, persécute son peuple. Les prisonniers de guerre réduits en esclavage alors qu'il est le dispensateur par excellence de la justice. Enfin, plutôt, devrait être. C'est le sens profond de Nabucco, puni finalement par le dieu de ses victimes qu'il ne reconnaît pas. L'hubris monstrueuse des tyrans qui s'identifient à Dieu ou aux dieux sans respecter leurs obligations qui ont pourtant été consacré par un serment, attire sur eux la légitime vengeance divine. Dans les pays occidentaux, on en reste apparemment souvent à cette vision dominante d'un dieu vengeur. Pas de place pour la miséricorde promise par le Nouveau Testament. Si nous revenons à Don Carlos, on s'aperçoit qu'un personnage juge émerge. C'est le grand inquisiteur, qui se place lui-même au-dessus de la justice des hommes, auquel il s'impose en tant que porte-parole de la volonté divine. Le braver, c'est s'opposer à Dieu. C'est le seul personnage absolument mauvais de l'opéra, tant il est aveuglé par son fanatisme, illustrant les réserves personnelles de Verdi face au dogmatisme religieux. En Espagne, l'opéra n'aurait pas pu être produit, alors qu'en France, où il a été créé, il rencontre un grand succès. Verdi et ses librettistes, comme je l'ai dit plus haut, ont en fait manipulé l'histoire, car dans la réalité, Don Carlos était un personnage sans envergure, connu pour ses caprices et sa cruauté. Et le très beau profil de Rodrigue Posa, l'ami fidèle, est largement imaginaire, mais constitue un contrepoint efficace à la noirceur du grand inquisiteur. Même peu en accord avec l'histoire, le thème est passionnant et permet au compositeur des airs sublimes, notamment les duos de Posa et Don Carlos.
Oh.
Une autre figure d'inquisiteur apparaît dans un opéra de Prokofiev et sa cruauté acharnée est mise tragiquement en évidence. L'Ange de Feu, à partir d'un roman de Valérie Bryoussov, a inspiré Prokofiev, qui a écrit le livret et la musique de l'opéra du même nom, peut jouer en France, nettement plus en Allemagne et en Italie. C'est l'histoire d'une femme, Renata, qui a cru avoir rencontré un ange quand elle était enfant, l'ange Madiel. Elle veut à tout prix le retrouver et se lance dans sa quête avec un chevalier rencontré un soir, que presque. Elle croit le reconnaître en la personne du comte Heinrich, avec qui elle avait vécu dans le passé une grande histoire d'amour. Mais le comte la rejette avec violence. L'opéra bascule d'une histoire possible, on passe à une quête surréaliste, dans laquelle s'entremêlent de multiples réminiscences. Elle rencontre Mephisto et Faust, tandis qu'Heinrich blesse Ruprecht. Renata est alors enfermée dans un couvent où elle sème le trouble. Accusée de sorcellerie, elle est condamnée au bûcher par le grand inquisiteur et exécutée. Cela ressemble à la sinistre affaire de Loudun, dont Ken Russell s'est sans doute inspiré dans son film Les Diables, sorti sur les écrans en 1971.